Bon, je vais prendre la parole à mon tour. Je remercie la MSH et plus particulièrement Laurence Rajot pour m'avoir proposé d'intervenir dans cette séance du séminaire et de présenter ce que j'ai appelé la plateforme de numérisation des monnaies et objets archéologiques. Bon, j'ai pas mis entre parenthèses petits objets archéologiques, mais on va voir qu'on est à une échelle qui est beaucoup plus réduite que les fresques monumentales qu'on vient de voir. C'est comme le disait Laurence, une étape différente du processus de numérisation et de catalogage et de mise en ligne de nos corpus d'études, et puis sur des objets d'études qui sont aussi différents. Donc pour commencer brièvement, voilà le plan général de la présentation, avec des parties qui sont assez inégales, comme on va le voir, mais peu importe, c'est le contenu qui est important. Dans un premier temps, je vais présenter l'historique du projet, puisque je ne l'ai pas développé seul, mais c'est quelque chose qui a accompagné mon parcours au sein de l'IRAMAT. Et donc voilà, c'est intéressant de remettre les choses dans leur contexte, de voir comment les pratiques ont évolué, comment les techniques ont évolué aussi dans des périodes assez courtes, puis de voir à partir de cette historique du projet quelle a été la définition du cahier des charges pour pouvoir développer cette plateforme. Dans un second temps, je présenterai le matériel qui est mis à disposition à l'heure actuelle. Encore une fois, c'est évolutif, et donc on va voir quels sont les outils dont on dispose actuellement et comment ça fonctionne d'un point de vue technique. Par la suite, je présenterai des exemples de réalisations qui ont été permises grâce à ce dispositif. Je peux le dire dès maintenant, je suis dans un laboratoire spécialisé très majoritairement en numismatique, donc il y aura beaucoup de monnaies. Ça a été développé très au départ pour la numérisation des collections de monnaies que nous étudions à l'IRAMAT. Ça fonctionne aussi pour d'autres types d'objets, mais on va voir que la mise en pratique et le cahier des charges est un petit peu différent. Et puis dans un dernier temps, on verra le fonctionnement de la plateforme, comment ça se passe d'un point de vue pratique si un collègue d'un laboratoire, un archéologue du laboratoire de Tours souhaite bénéficier des services de la plateforme, quelle est la mise en œuvre, ou un étudiant peut-être parmi vous qui travaille sur des petits objets archéologiques qui peut souhaiter bénéficier d'une formation et d'un accompagnement pour la numérisation de son corpus d'études. Donc en introduction, je reviens un petit peu en arrière sur quelles ont été les raisons de la mise en place de ce dispositif, et puis à la fois les raisons et puis les besoins et l'évolution d'un certain nombre de paramètres qui ont permis la réalisation de ce dispositif. La première chose, c'est l'accessibilité croissante des moyens de numérisation. Ça, c'est pas nouveau, mais il y a eu un moment, on va le voir dans la suite, où les chercheurs ont dû faire évoluer leurs pratiques et les moyens techniques étaient soit très onéreux, soit n'existaient pas. Et donc là, il y a eu une accélération de la mise à disposition des moyens de numérisation qui nous a permis de développer cette plateforme. Ces évolutions, elles concernent les chercheurs. C'est des évolutions techniques et donc qui ont fait évoluer aussi les chercheurs dans leur pratique de recherche. Quand je suis arrivé au laboratoire où je suis, on a récupéré des moulages de monnaie, on a récupéré des fiches cartonnées, des choses comme ça. Et donc il y a toute une génération qui a travaillé de cette manière-là, qui soit est partie à la retraite et s'en tirait bien, ou alors il y en a d'autres qui ont dû faire évoluer leur pratique. Et puis nous, en tant qu'étudiants, en tant que doctorants ou jeunes chercheurs, ben, on a été confrontés à des méthodologies qui n'étaient plus adaptées, et on a dû mettre en place avec des collègues des méthodologies qui correspondaient aux possibilités offertes par les moyens numériques actuels. Du fait qu'il s'agit de recherches spécialisées, il est nécessaire de prendre en compte les développements techniques d'un ordre général, mais en les adaptant à des besoins très spécifiques. Donc il est nécessaire, compte tenu en plus des moyens limités qu'on a en sciences humaines et sociales, d'être attentif, et puis de trouver des solutions à partir d'idées glanées un peu à droite et à gauche pour développer des dispositifs spécialisés qui vont permettre de réaliser le catalogage et la numérisation de nos corpus d'études dans les meilleures conditions. Ce qui est apparu aussi, et moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'étais étudiant et que je souhaite, qui me paraît encore vrai à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un besoin de formation à la fois des chercheurs, des collègues dans les laboratoires, ou des personnels des laboratoires, pas uniquement les chercheurs évidemment, et puis des étudiants. C'est des choses, en tout cas pour ce que je connais, surtout à Orléans, où il y a peu d'enseignements d'ordre pratique pour ce qui concerne les bases de données, la numérisation, la mise en ligne des collections. Et donc, on a développé cette démarche intégrée à l'IRAMAT où les étudiants qui viennent travailler chez nous sur des corpus principalement de monnaie, mais ça peut être du verre, ça peut être d'autres types d'objets, ça fera partie de la formation de les rendre autonomes sur des dispositifs de ce type-là. C'est pas... Ça peut donner lieu à des développements très, très spécifiques. C'est pas forcément un système clé en main qui va fonctionner pour toutes les problématiques. Mais on souhaite accompagner les étudiants le plus systématiquement possible parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un déficit de ce côté-là. Donc, ce que j'ai appelé la genèse de la plateforme. Je reprends les choses du début. Donc, l'IRAMAT, comme j'ai déjà un petit peu dit, c'est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude et l'analyse des matériaux anciens. IRAMAT, c'est l'Institut de recherche sur les archéomatériaux. Et donc, on travaille sur des objets archéologiques qui présentent des caractéristiques diverses. Donc, beaucoup de monnaie, mais également de l'orfèvrerie, des bijoux, et puis de la verrerie ou des fragments de verre, pas forcément des objets entiers. Le laboratoire est spécialisé dans l'analyse des matériaux du patrimoine, et donc, bien souvent, on est obligé d'emprunter les objets aux lieux de conservation, aux institutions qui en ont la charge, pour faire les analyses au laboratoire. Donc, dans des cas comme ceci, on peut faire la numérisation des objets au laboratoire, on n'est pas obligé de se déplacer sur le lieu de conservation. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, pour compléter un corpus, où on va avoir fait l'analyse d'un certain nombre d'objets, on va avoir besoin, pour mieux comprendre ce premier corpus, de l'élargir à des objets soit qu'on ne peut pas emprunter, soit qu'on ne souhaite pas analyser, mais dont on a besoin d'enregistrer les informations. Et donc là, il était nécessaire de pouvoir déplacer le studio photo sur le lieu de conservation pour réaliser les prises de vue. Et si possible, d'obtenir les mêmes conditions de prise de vue pour que ça obtenir la même qualité d'image et puis pouvoir les présenter côte à côte dans des publications. Donc on a fait un constat, j'ai fait un constat en 2005-2008, c'est les années pendant lesquelles j'étais en thèse. Le système de numérisation qu'on avait à l'IRAMAT était peu performant. À l'époque, on travaillait avec une caméra vidéo numérique et des éclairages par tube fluorescent. C'est un système qui a fonctionné un certain temps. On n'aurait pas pu s'offrir autre chose dans les années précédentes, mais petit à petit, le prix du matériel de meilleure qualité a baissé. Il y a d'autres systèmes d'éclairage qui sont apparus. Et de plus en plus, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler d'une manière plus adaptée, avec malgré les moyens qu'on a en SHS. Et voilà, comme je le disais aussi en préambule, au même moment, on a vu l'émergence de ce qu'on appelle les humanités numériques. On a eu des grands programmes de catalogage informatisé. Tout à l'heure, dans les questions... on a vu un petit peu que commencer après les autres, ça peut avoir des avantages quand on parlait des thésaurus. Et là, clairement, nous, on était très en retard parce que notre spécialité, c'est de faire des analyses d'objets, pas de faire des humanités numériques. Mais du coup, on a bénéficié de l'expérience des autres. On a pu s'inspirer, voir ce qui fonctionnait moins bien. S'inscrire dans ce mouvement général où les grandes institutions comme la BNF ou des musées ou des bibliothèques étrangères ont numérisé, se sont posé des questions de catalogage et d'indexation dans les bases de données pour des objets, en particulier patrimoniaux, qui posent des problèmes, en tout cas qui posent des questions spécifiques pour faire entrer, comme c'est le cas pour Gallica, où on va mettre des imprimés, de la musique, des monnaies, des vases grecs, etc., dans un module de fiche qui est commun. Et donc ce mouvement général s'est accompagné de développement de dispositifs propres, plus ou moins bricolés, et de procédures par des équipes plus réduites ou par des institutions plus réduites. Donc voilà comment ça s'est construit. Et donc en 2010, on a développé ce premier montage avec deux anciens collègues, Adrien Arles, qui était postdoctorant à l'époque, et on était tous les deux très amis et passionnés de photo, donc ça tombait bien. Et puis Jean-Claude Rimbaud, qui est un ancien collègue qui a pris sa retraite maintenant, mais qui avait l'avantage de venir d'un laboratoire d'études de l'atmosphère et de l'espace, donc je rejoins l'anecdote de notre collègue précédemment avec son ingénieur qui faisait de l'astrophysique, de l'astrophysique, voilà. Et Jean-Claude, lui, venait du service technique d'un laboratoire qui envoie des ballons sondes et des satellites dans l'espace. Et donc, on a pu récupérer des chutes d'aluminium alvéolé utilisées pour la structure des satellites. Donc, c'est un matériau qui est très léger et très robuste. Et ça tombait bien, puisque c'est ce qu'il nous fallait pour construire le montage, quelque chose de solide et de léger, puisqu'on va le transporter. Donc, on a fait progresser notre matériel. C'était pas encore formidable, hein, mais on a pu faire des premiers essais et puis surtout développer un studio photo mobile qui permettait de faire des prises de vue normalisées, peu importe l'endroit où on se trouve. Ça s'est développé. Moi, j'ai obtenu une bourse de voyage d'une institution internationale pour aller étudier des collections de monnaie à l'étranger, des endroits où je ne savais pas à l'époque si je pourrais y retourner un jour. Et donc, il était essentiel pour moi d'obtenir des numérisations de qualité, de bonne qualité, pour pouvoir travailler ensuite dessus et éventuellement ne jamais retourner sur place. Et puis, pouvoir obtenir des images très normalisées, de manière à minimiser l'intervention humaine et faire tourner au maximum l'ordinateur tout seul pour ce traitement. On va voir que c'est quelque chose de très important. Donc voilà, ce qui est ressorti de ce premier essai qui a montré ses limites, mais qui nous a permis de progresser, c'est le caractère, on a pu mettre en évidence le caractère primordial de plusieurs paramètres. Le premier, c'est celui de la simplicité d'utilisation, puisque c'est un dispositif qui est destiné au plus grand nombre, chercheurs, ingénieurs, techniciens ou étudiants. Donc il est évident que pour qu'il soit utilisable par le plus grand nombre, il faut que ce soit le plus simple possible. Ce qui est important aussi, c'est la facilité de montage et démontage. C'était encore un peu un meuble Ikea celui-ci, mais ensuite on a progressé et voilà, il n'y a pas de notice, il n'y a pas besoin de diplôme d'ingénieur pour y arriver. Il y avait aussi la question de la facilité de transport, à la fois en termes de poids et d'encombrement, puisque c'est destiné à se déplacer avec nous sur les collections, dans les collections. Il faut pouvoir facilement l'emmener en train ou en avion, enfin peu importe, mais que ce soit facilement transportable, que ce ne soit pas une contrainte. Ce qui nous a apparu aussi très important, c'est le fait d'avoir une très bonne concentration de la lumière. À l'époque, on travaillait, les systèmes LED étaient encore assez chers, ou en tout cas, il n'y avait pas de dispositif vraiment adapté pour la prise de vue macro. Nous, on travaillait avec le flash. Pour les photos, ce qui n'était pas du tout satisfaisant, mais on avait déjà mis en évidence ce besoin d'une forte concentration de la lumière pour avoir le plus de latitude possible sur les paramètres de prise de vue. Après avoir utilisé une technique que certains marchands utilisent ou voilà qu'on a trouvé chez d'autres, à savoir mettre un papier de couleur ou croiser des fils de pêche pour poser l'objet et ne pas avoir de fond, on s'est rendu compte que c'était pas des bonnes solutions et donc on a fait quelque chose qu'on voit dans les magasins de photos pour regarder les diapos. C'est un petit panneau lumineux qui permet d'éclairer le sujet par le dessous et donc de pas avoir d'ombre autour de son objet et donc d'avoir un détourage facilité et de pas avoir à détourer les monnaies une par une de manière un peu contraignante. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a paru comme fondamental. Et puis un dernier point, c'est celui de travailler en étant raccordé au secteur et pas avec des batteries qui vont se vider, il faut démonter et puis penser à charger les batteries et ainsi de suite, ce qui permet d'avoir un système qui est opérationnel immédiatement et puis de ne pas avoir de modification du cadrage. S'il faut démonter l'appareil, le remettre, ça peut générer un petit décalage. Là, on a des paramètres qui restent les mêmes. On coupe le montage le soir au musée ou au dépôt archéologique, on revient le lendemain matin et on peut travailler immédiatement dans des conditions qui sont précisément les mêmes. Donc voilà, tout ça peut être résumé de la manière suivante. Le prérequis de départ et ce qui est fondamental, c'est la prise de vue normalisée. Et de là va découler, d'une part, un traitement automatisé facilité, et donc ça permet de se dégager du temps pour autre chose, hein. L'intervention humaine réduite au minimum, c'est-à-dire qu'on fait un contrôle du traitement de l'image, mais on ne fait pas le traitement d'image soi-même. Typiquement, quand je suis parti avec ma bourse de voyage en 2010-2011, je faisais à peu près 300-400 monnaies en une journée. Ça tournait dans la soirée quand j'allais boire un coup au restaurant avec un collègue. Et puis, quand je revenais, les images étaient traitées et je pouvais contrôler avant de partir du lieu de déplacement que j'ai toutes les informations qui m'intéressent et que toutes sont de la même qualité. Et donc, ce qui découle de tout ça, c'est ce que je disais un petit peu auparavant, c'est un catalogage homogène, c'est-à-dire que j'ai fait la photo de l'objet au laboratoire à Paris, dans un dépôt de fouilles dans le Lot-et-Garonne ou à New York, j'ai des images qui sont toutes de la même qualité, qui ont toutes les mêmes conditions d'éclairage et qui, que ce soit pour une publication web ou papier, qui peuvent être juxtaposées les unes avec les autres sans qu'il y ait de différence apparente. On progresse dans le temps et on progresse dans la technique. Donc on a délaissé à partir de 2013 notre vieux montage avec l'aluminium de l'espace. On a changé de technicien. Dorénavant, c'est Henrique Damota qui travaille avec nous et qui nous a proposé une solution qui était un petit peu différente, avec un système de boîte en plastique à charnière, ce qui permet de... Le système de charnière, sinon c'est le patron d'un cube en carton qu'on découpe, et puis il suffit de replier les morceaux et tout est cohérent. Il y a pas de, on ne peut pas perdre de pièces, on peut pas oublier un outil pour construire le système. Donc ça, c'était un développement qui date de 2013. Ça a l'air de rien, mais ça, c'est plus compact, c'est plus léger, et puis on ne peut pas se tromper. Donc ça a bien facilité les choses, et puis le système est plus adapté aussi en termes de gestion de la couleur. L'autre, c'était de l'aluminium qui était peint avec un blanc qui n'était pas tout à fait blanc. Là, on a une couleur qui est plus proche de la lumière naturelle et ça facilite vraiment les choses. Et puis, on est passé à l'éclairage annulaire par LED qui est devenu abordable dans l'intervalle. Et donc, on a un éclairage qui est constant à la différence du flash qu'on utilisait auparavant. Et voilà ce que ça donne sur la photo de gauche, le dispositif qui, avec la boîte qui est repliée, la petite sacoche avec l'appareil photo, l'éclairage annulaire, il manque un peu de câblage et puis l'ordinateur évidemment pour la prise de vue, mais c'est relativement compact et ça, moyennant quelques ajustements, c'est un dispositif qui est encore utilisé à l'heure actuelle et qui fonctionne bien. Voilà ce que ça donne en pratique. On a l'opérateur qui est ici, l'ordinateur qui permet le contrôle de ce qui apparaît sur le capteur de l'appareil, et puis on sélectionne les paramètres de prise de vue et on réalise l'image, et puis ainsi de suite. À cette période, on a perçu une demande grandissante de la part des utilisateurs, que ce soit à l'IRAMAT ou au sein d'autres équipes. Et donc on a eu une utilisation qui était de plus en plus soutenue. J'ai pas de valeur à vous donner, mais avec cet ancien matériel, on a dû faire plus de 50 000 numérisations en même pas quelques, enfin en, peut-être deux ans, enfin en une durée qui est assez courte, avec du matériel qui n'était pas prévu pour, donc qui s'est usé prématurément. Et puis on avait de plus en plus le dispositif qui était déplacé à l'extérieur par des collègues, et donc on pouvait pas en bénéficier quand on le souhaitait. Il y avait des problèmes de cet ordre-là. Donc il est apparu souhaitable d'évoluer vers du matériel de prise de vue plus récent et plus performant, et puis vers des montages plus polyvalents. On va voir ça dans la suite, comment on a fait ces évolutions. Et compte tenu des moyens dont on disposait, encore une fois, on n'est pas un laboratoire de numérisation, d'humanité numérique, C'est quelque chose d'accessoire dont on a besoin pour nos recherches, mais c'est difficile pour nous d'avoir des fonds pour ce type de développement. Et il est devenu indispensable pour nous d'avoir un soutien extérieur pour accompagner ces évolutions et puis les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc voilà comment est né le projet plateforme de numérisation des monnaies et objets archéologiques qui a été déposé à la MSH Val-de-Loire à l'appel à projet du printemps 2014, qui a été financé à hauteur de 6 000 euros avec pour laboratoire porteur l'IRAMAT d'Orléans et puis le laboratoire partenaire qui était le CETIS à Tours, représenté par Catherine Grandjean. Donc deux laboratoires qui ont des liens depuis pas mal d'années, qui se sont concrétisés encore plus avec le développement de l'axe monnaie-finance de la MSH, mais pour autant, le projet était ouvert à d'autres équipes et le dispositif sera accessible, enfin, est accessible à d'autres équipes de la MSH, évidemment. Ce projet a permis deux choses. Dans un premier temps, c'est la pérennisation des efforts engagés. On était vraiment arrivé à un point de rupture où le matériel était inutilisable et pour obtenir quelque chose de qualité suffisante, on ne pouvait pas se le permettre financièrement. Et puis, ce qui est important, c'est de voir aussi que c'est des réflexions qui sont toujours en cours. Là, j'ai rencontré des collègues archéologues ce matin et on réfléchit à des nouvelles évolutions. Il y a sans arrêt des nouvelles possibilités techniques qui apparaissent, que ce soit en termes d'éclairage ou de prise de vue ou de traitement informatisé des fichiers. Donc c'est une plateforme qui est évolutive. Ce que je présente aujourd'hui, c'est un état de cette évolution. Vous avez vu des stades précédents et il y a des détails qui ont peut-être l'air de rien, mais au final, dans l'utilisation pratique, c'est des choses qui sont vraiment précieuses. Donc cette plateforme, elle est évolutive à la fois du fait de cette évolution matérielle, mais aussi du fait des besoins des utilisateurs qui ne vont pas être les mêmes en fonction des équipes auxquelles qui vont faire appel à nous. Donc voilà comment ça se présente en pratique. On a à l'IRAMAT un dispositif qui est fixe, donc c'est-à-dire qu'il ne bougera jamais, qu'il est en place. Il présente l'avantage d'être relativement modulable, c'est-à-dire qu'on a plusieurs tentes de boîtes à lumière pour gérer l'éclairage sur l'objet. On a un système d'éclairage qui est plus complexe pour différents types d'objets, si on veut faire ressortir des reliefs ou si on veut éviter d'avoir des reflets ou d'avoir un éclairage rasant ou voilà, différentes sources d'éclairage, c'est possible. Et puis il y a le soutien technique, même si comme je l'ai dit, je suis pas un professionnel de l'image et je suis chercheur aussi et donc c'est pas mon activité principale, mais voilà, soit Henrik ou moi, on peut accompagner les utilisateurs pour définir un cahier des charges, des solutions techniques et accompagner la mise en œuvre de ces campagnes de numérisation. Et puis le second dispositif, donc il est mobile. Il permet la réalisation de numérisation de qualité équivalente à l'autre. Donc peu importe si on réalise des prises de vue à l'extérieur ou au laboratoire, ce sera la même chose. Et donc on peut facilement le transporter sur le terrain archéologique ou autre, ou sur le lieu de conservation des collections. Et a priori, en tout cas l'expérience l'a prouvé, l'utilisateur est autonome après une formation. Donc j'avais animé une formation en juin l'année dernière à Tours qui avait rassemblé 13 il y a 13 inscrits, il y a une ou deux personnes qui n'étaient pas là, mais peu importe. Bref, à l'issue de cette formation, une collègue du CETIS est partie à l'aventure en Grèce numériser je sais plus 2000 monnaies, quelque chose comme ça, et ça s'est parfaitement bien passé et donc ça montre que le dispositif est relativement simple d'utilisation. J'ai mis cette remarque aussi en bas, c'est qu'il y avait peu d'étudiants qui étaient présents à la formation, ce que j'ai regretté. Donc évidemment, c'est important de former les personnels permanents au sein des équipes, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est important que les étudiants puissent bénéficier de ce type de formation le plus tôt possible dans leur cursus. Et qui ne se retrouvent pas à faire des numérisations de qualité moyenne ou médiocre pendant le master, par exemple, et puis à se retrouver en thèse avec toute une partie du corpus qui a été numérisée, mais insuffisante pour des études plus fines, ou qui vont découvrir l'existence de la plateforme plus tard dans leur cursus, et puis avoir des problèmes de ce type, des différences de qualité ou des différences visibles entre les différentes images. Donc voilà, le plus possible, on essaye de... Enfin, je souhaite que les étudiants soient formés le plus tôt possible. Donc voilà, est-ce qu'il faut renouveler la formation et la destiner davantage aux étudiants, faire la promotion différemment, c'est à voir. Ça supposera un soutien de la MSH pour ça, mais moi je suis prêt à le faire si c'est nécessaire. Donc voilà la fiche de la formation pour l'anecdote. Hop. Et donc le matériel de la plateforme, c'est rien d'extraordinaire, hein. C'est du matériel de prise de vue avec à chaque fois des choses qui sont en double, donc des boîtiers à capteur plein format Canon. On va voir qu'on a choisi Canon parce que le logiciel de prise de vue est gratuit, alors que Nikon était payant. Enfin, bon, c'est une raison économique, hein, parce que si on doit installer le logiciel sur un grand nombre de postes, payer 150€ à chaque fois à Nikon, c'est pas faisable, alors qu'un logiciel gratuit, c'est pas la même chose. Des objectifs macro 100mm Canon de la série L, c'est la série de meilleure qualité chez Canon, et puis un objectif qui est un zoom avec une focale 24-105 qui permet la prise de vue d'objets un petit peu plus grands ou de groupes de petits objets pour les numismates, ça va être les trésors de monnaie ou ce genre de choses. Et puis donc le logiciel qui est gratuit et que chacun installe sur son poste. Donc les apports par rapport à ce qu'on avait auparavant, qui ont été permis grâce au projet MSH, c'est du matériel. Bon, professionnel, c'est peut-être un petit peu beaucoup dire, c'est pas les boîtiers sont pas les plus onéreux et les plus performants, mais déjà ça permet de faire des images d'excellente qualité. On arrive à 3600 dpi pour les prises de vue habituelles sur les monnaies, donc ça permet d'aller voir des détails assez fins comme on va le voir juste après. L'autofocus est précis et rapide, ce qui permet de faire les photos sans se poser de questions, ce sera net là où on a choisi de faire la mise au point, et ça se fait de manière très, très fluide. Donc tout est doublé, hein. Voilà, boîtier plus objectif x2 pour avoir une plateforme fixe qui est toujours opérationnelle, et puis un montage mobile qui peut être en déplacement. Ça, c'était quelque chose d'important pour le fonctionnement au sein de l'IRAMAT, mais aussi avec les équipes partenaires. Et donc ce que j'ai déjà évoqué, le logiciel de prise de vue à distance qui est gratuit, donc ça peut être installé. Évidemment, moi je l'ai sur mon PC, ça peut être installé sur celui d'un collègue qui veut juste faire un essai, et on ne se pose pas la question d'installer ou non un logiciel s'il est gratuit. Et puis au niveau des accessoires, donc on a encore tout en double, un éclairage annulaire, enfin, les éclairages annulaires qui se fixent sur le... Je me rends compte que c'est un Nikon, ça. Qui se fixe sur le bout de l'objectif, donc qui va éclairer le sujet par le dessus. Ça peut être soit le cercle complet, soit un côté, soit l'autre, si on souhaite avoir plus ou moins d'ombre, plus ou moins de lumière. Et puis des rampes de LED qu'on peut disposer pour modifier l'éclairage si on le souhaite. Et puis le rétroéclairage LED. Là encore une fois, on n'en est pas responsable, mais on a bénéficié d'une évolution de la part de Kaiser, la marque qui produit ce type de rétroéclairage LED. Enfin, de rétroéclairage, auparavant, c'était pas de la LED, et au fil des années, le niveau d'éclairage décroissait tout doucement, et on s'en rend compte que très tard, quand le niveau d'éclairage devient très faible, alors qu'avec le LED, c'est constant, et on n'a pas ce type de problème. Donc voilà, ça, une petite tablette, enfin deux petites tablettes pour les échantillons de faible dimension, et puis une plus grande, qui fait 20 cm par 30, pour les échantillons de grande taille ou les lots d'objets quand ça s'avère nécessaire. Et puis des petits accessoires, je spécifie là-dessus, un niveau à bulle qui permet d'avoir l'appareil qui est vraiment plan par rapport au sujet et pas avec une déviation qui va générer des déformations, et puis la mire qui permet la mise à l'échelle et la correction de balance des couleurs, et puis tout ce qui concerne le câblage, le raccordement, etc. Et puis chacun apporte son ordinateur, et puis l'ensemble du matériel est présenté. Donc voilà ce que ça donne au laboratoire, le studio photofix. Donc c'est un PC tour avec un grand écran sur lequel qui est relié au dispositif qui est ici. Donc là forcément c'est très lumineux dans la boîte, donc on voit pas grand chose, mais on voit une petite perle en verre que notre collègue Sophie est en train de numériser. Alors je sais pas, doit faire 3 mm la perle. Pour les tout petits objets, on remplit pas le cadre, mais on a quand même une qualité d'image qui est excellente. Et donc la mise en pratique, elle est particulièrement simple. Hein. On vérifie les conditions d'éclairage et la mise au point sur l'écran. On fait la prise de vue et puis ensuite on passe à la suite. Donc voilà les deux solutions qui existent concernant les studios photo nomades. Donc la première, c'est le fameux montage plastique à charnière que j'ai appelé amélioré, où il y a quelques petits aménagements qui ont été faits, qui ne sont pas forcément visibles. Enfin, il y a cette petite barre-là qui permet d'éviter les vibrations et donc d'avoir une meilleure stabilité et donc de ne pas avoir de flou de bouger dans certains cas. Et puis des petits détails aussi qui permettent de faire le montage de manière plus facile. C'est pas très important, mais c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui est très simple à mettre en œuvre, qui présente cependant l'inconvénient d'être peu modulable, puisque l'appareil est fixé dans la boîte à ce niveau-là et on peut pas le bouger. On peut simplement rehausser le niveau de le plan sur lequel on va poser l'objet, mais on peut pas le descendre plus bas que le support. Donc voilà, c'est une solution qui fonctionne bien, mais qui a certaines limites. Et puis dans le cadre du projet MSH, on a développé, encore une fois, il y a quelque chose qui est apparu sur le marché qui n'existait pas et qui correspondait vraiment à ce dont on avait besoin, donc ça tombait bien. C'est la boîte à lumière Folio de... je ne sais plus quelle est la marque, peu importe. Et puis le bras magique, alors là c'est la marque qui l'appelle comme ça, mais c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Et donc la boîte Folio, c'est tout bête, c'est un cube en plastique. Alors on peut prendre des escarpins avec, mais là en l'occurrence c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est simplement une boîte en plastique avec une ouverture sur l'avant qui est prépliée et avec un système d'aimant sur les côtés ici qui permet de le... voilà, là il n'y a même plus de charnière, c'est préplié, il n'y a même plus de... voilà, il n'y a besoin absolument de rien et ça se replie, c'est hyper compact et c'est extrêmement performant en termes de concentration de la lumière. Le seul aménagement qu'on a fait, nous, c'est qu'évidemment, on ne fait pas des photos avec le portable sur le devant. On utilise cette ouverture pour placer et retirer les objets. Donc on a percé un trou sur le dessus pour avoir une prise de vue verticale. Et donc voilà ce que ça donne. C'est de la photo promotionnelle du marchand, ça, mais peu importe. Hein, on a une boîte qui est comme une chemise cartonnée, quoi. C'est quelque chose qui tient absolument pas de place, qui est encore plus compact et encore plus léger que notre ancienne boîte plastique maison. À ceci près que celle-ci n'intègre pas de système de fixation. La boîte plastique qu'on a vue auparavant, elle est absolument autonome, elle permet de fixer l'appareil photo. Là, il faut un système de fixation extérieure. Voilà, et donc en fonction des cas, si je vais dans un lieu de conservation que je connais et où je sais qu'il y a un statif qui est disponible pour tenir l'appareil photo, bah c'est très bien, je transporte juste mon petit cube pliable en plastique et c'est très bien comme ça. Si par contre je connais pas le lieu où je vais, ou bien je sais qu'il n'y a pas de statif qui est disponible pour la prise de vue, alors je peux emporter mon bras magique qui est disponible selon deux options qu'on va voir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est simplement un bras articulé qui est fait par une marque qui fait des pieds photo. Ben c'est voilà, ce trépied qui soutient la caméra qui me filme est un Manfrotto. C'est extrêmement robuste. Une fois que le levier est bloqué, on peut se battre avec, ça bougera absolument pas. Et l'intérêt principal qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas besoin de visser un par un les rotules ou les axes. Il y a un seul levier qui contrôle l'ensemble. Donc une fois que la position est trouvée pour la prise de vue, on bloque le bras et c'est en place et ça ne bougera plus. C'est peu encombrant, donc ça c'est pas mal, par contre c'est assez lourd. Donc si on peut s'en passer ou travailler un petit peu différemment, c'est pas plus mal. Ça fait pas loin de 3 kilos, donc avec le reste du matériel, voilà, ça remplit un petit sac à dos. Ça reste transportable, mais ce bras-là est un petit peu long. Et donc pour le fixer, on a deux possibilités, soit par pince, soit avec un support trépied. Donc voilà la pince toute seule, et puis en pratique ce que ça donne. Alors il y a des gens qui font manifestement des cascades en voiture qui l'utilisent, fixer un tube ici. Donc ça, c'est un gage de robustesse probablement. Et puis pour une utilisation qui ressemble plus à la nôtre, c'est on l'accroche à un rebord de table. Pour photographier un ticket ou voilà ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est relativement c'est simple, on ne peut pas se tromper. Partout, il y a une table. Alors parfois, dans les vieilles bibliothèques, il y a des tables avec des rebords ouvragés où on ne peut pas accrocher ça, donc on va voir comment on peut travailler. Mais voilà, avec ce système-là, très rapidement, on est opérationnel et on arrive sur le lieu de conservation. 10 minutes après, on peut commencer à prendre les objets en photo. Et puis l'autre système, c'est si on ne peut pas fixer la pince, on a un système de trépied ici qui permet de se poser n'importe où, mais par contre qui tient pas mal de place sur la table de travail. Donc, voilà, il y a plusieurs solutions et en fonction des besoins et des possibilités, il faut définir celle qui est la plus adaptée. Donc voilà, en bref, c'est un peu ce que je viens de dire. Il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Et l'idée, c'est d'identifier quelle est la plus adaptée en fonction du corpus, des conditions de travail. Et puis, voilà, il faut qu'on... L'idéal, c'est d'en parler ensemble avant le déplacement ou avant la mise en place de la campagne de numérisation pour définir quelle est la solution qui est la plus judicieuse pour la problématique du collègue concerné. Alors, quelques exemples. On va voir des monnaies. Pas que, mais beaucoup de monnaies. Donc ce premier exemple, c'est un sou d'or de Louis le Pieux, donc c'est une monnaie que j'étudie personnellement. Donc voilà, c'est une monnaie qui fait faut faire 23 mm de diamètre, et où là je suis pas en qualité maximale, mais on peut étudier, voilà, on peut voir qu'il est moustachu, qu'il y a une griffure sur la joue qui est apparue. On peut voir la tête laurée à la romaine, on peut étudier sa coupe de cheveux, enfin bon, voilà, on peut faire tout un tas d'études fines. Sur d'autres cas comme celle-ci, je me souviens plus ce que c'est une monnaie d'or de la fin du Moyen-Âge, peu importe, où cet exemple-là, je l'ai pris parce qu'on peut étudier des choses comme les petits points qui sont là, ou les croix, ça, c'est des indications importantes pour les spécialistes de cette période qui vont pouvoir identifier des productions propres à un atelier ou propres à une année particulière et donc pouvoir étudier sur des agrandissements des détails de cet ordre. Ça présente un intérêt pour ces spécialistes. Et puis ce qui est intéressant aussi sur cette monnaie, c'est qu'on peut avec les grossissements voir les traces de compas, tout ce qui concerne on appelle la mise en page de la monnaie, le graveur de coin pour construire son type monétaire qui est assez complexe. Il y a une croix qui forme la trame générale, mais ensuite pour dessiner les différentes formes géométriques qui forment l'ensemble du type, il s'est aidé de cercles qu'on peut retrouver, en tout cas qu'on peut voir ici, avec une prise de vue de qualité moindre, ce ne sera pas forcément le cas. Une monnaie antique qui vient de Lycie, maintenant en Turquie, où voilà, je reprends l'exemple de la chevelure, je ne sais pas si c'est un intérêt ici, mais là on peut regarder comment le personnage est coiffé, et puis comparer d'une monnaie à l'autre, ou entre la Lycie et une principauté voisine, étudier ce type de détail ou tout autre. Et puis encore un exemple qui celui-ci est local. Donc ça c'est une monnaie mérovingienne qui a été trouvée sur le site de Marmoutier au nord de la Loire à Tours. C'est une petite monnaie qui fait, j'ai mis la taille réelle, qui fait 11 mm. C'est plus petit que la pièce de 1 centime d'euro qui est la plus petite qu'on connaît. Donc c'est vraiment une monnaie qui est microscopique. Et là, elle est pas, je pourrais l'agrandir pour qu'elle fasse trois fois la taille qu'elle fait là. Et donc on peut étudier des détails vraiment, vraiment très fins. Et en comparant cette monnaie et une monnaie du même type qui est conservée à la BNF, j'ai pu identifier que les deux monnaies sont issues des mêmes coins. Et que, donc au sein de cette série qui est assez rare, ben on a deux monnaies qui proviennent des mêmes matrices, qui sont frappées précisément avec les mêmes objets. C'est des choses qui sont intéressantes pour le numismat. Je ne vais pas développer l'intérêt de ce type d'étude, mais voilà, même sur des objets, la monnaie de la BNF, elle est dans un état de conservation qui est nettement meilleur. Celle-ci est moins belle, elle présente moins de relief, elle est plus altérée, puisqu'elle était enterrée dans un sol qui était assez peu favorable à sa conservation. Mais malgré ça et malgré sa petite taille, on peut observer des détails vraiment fins. Une monnaie romaine en bronze avec un cheval, mais je ne sais pas quoi vous dire dessus. Bon, c'était pour poursuivre l'illustration. Et puis une monnaie byzantine. Bon voilà, encore une fois, si on veut étudier des détails vraiment fins sur les monnaies, celle-ci, voilà, pour l'exemple, elle fait 15 mm, donc c'est encore très petit. Et on peut regarder le buste du personnage. Une monnaie celtique de Gaule-Belgique, mais j'en sais pas plus. Hop. Bon, bref, on a vu assez de monnaie. Vous avez compris que ça a été développé vraiment pour la problématique de la numismatique. On va voir ensuite quelques exemples pour d'autres types d'objets, mais en tout cas, pour la finalité première qui était l'étude fine des monnaies, c'est suffisant. On pourrait avoir des appareils photo de meilleure qualité, on pourrait avoir des éclairages plus puissants, on pourrait avoir et ne plus avoir 3600 dpi, mais peut-être 5000 ou 7200. En tout cas, pour toutes les études dont on a besoin en numismatique, la qualité est suffisante. Donc que ce soit des détails, des particularités épigraphiques ou des détails iconographiques, où on peut étudier les différents ou les marques d'atelier, ce que j'évoquais sur la monnaie en or médiévale. Les surfrappes, on a des monnaies qui sont frappées plusieurs fois. Étudier l'état de surface, étudier des défauts sur les monnaies qui vont montrer l'usure des coins, et puis étudier les liaisons de coins, ce que j'ai évoqué, pouvoir au sein d'une série monétaire compter combien de coins ont été utilisés pour chaque face, et donc faire une évaluation de la production monétaire. Là, on a un enregistrement de l'information qui est total pour une étude approfondie, à ceci près qu'on ne fait pas de photo de la tranche. Il y a peu de cas où l'étude de la tranche des monnaies est intéressante pour les périodes anciennes, je l'ai quand même mentionné, pour tout ce dont on a besoin, on a un enregistrement d'informations qui est suffisant. Donc c'est pour les monnaies, on peut dire que le système est valide. Pour d'autres petits objets archéologiques, en voici quelques-uns qui sont représentés. Encore une fois, c'est pas en qualité, c'est pas en taille réelle des pixels, c'est des petits objets qui sont représentés de manière en image réduite, mais peu importe. On a des fragments de un fragment de verrerie, un petit récipient en verre, une boucle d'oreille lombarde, fragment d'obsidienne. Donc là, sur le verre et l'obsidienne, il y a la notion de transparence aussi qui est importante. Là, il faut voir. On peut apprécier l'épaisseur en fonction de la profondeur de la couleur sur l'obsidienne. La même chose sur le verre. On voit les bulles. Donc le rétroéclairage par le dessous, c'est quelque chose qui est important dans des cas comme ceci. Et puis là, je ne sais plus ce qu'on a. Ça, c'est un fragment de scorie de cuivre, je crois, sur un site de métallurgie fouillé par des collègues. Et puis un échantillon géologique qui a été poli et dont on peut qu'on peut aussi numériser de cette manière-là. Il est évident, en voyant ces objets, que à part la boucle d'oreille, les problématiques de numérisation vont être différentes. Dès lors qu'on a un fragment de verre comme celui-ci, là on la photographie depuis le dessus et en le posant d'une certaine manière. C'est pas comme la monnaie où on la pose sur une face puis sur l'autre, on a toute l'information, on passe à la suivante. pour, j'ai pas de tesson de céramique, mais c'est la même chose. Il y a des informations qui sont essentielles, qu'on peut enregistrer d'une autre manière, mais comme des rayons de courbure, des épaisseurs, des détails de pâte, plutôt que l'objet entier, où là, il faut travailler pas de manière automatique, où on va faire plusieurs centaines de monnaies par jour, par exemple, ou sur des tessons ou des fragments de verre. Il faut développer des méthodologies qui sont différentes et on va travailler avec des rythmes différents. Il faudra davantage s'adapter à chaque objet précis. Donc voilà, c'est potentiellement plus complexe que pour la monnaie, puisque la géométrie est moins normalisée. On peut avoir, enfin, on a des reliefs qui sont plus importants, ce qui va poser des problèmes en termes de profondeur de champ. Une monnaie, le cas idéal, c'est quelque chose qui est très plan. Alors ça peut être parfois bombé et poser davantage de soucis, mais ce sera jamais la même chose qu'un objet qui a véritablement trois dimensions et pour lequel, bah, si on est net quelque part, les parties les plus sur les points les plus bas, sur les parties les plus hautes, on n'aura pas la netteté que l'on souhaite. Donc ça nécessite de mettre en place des procédures, on va faire plusieurs images pour les recomposer. Bon, c'est plus contraignant, mais le système permet d'avoir les conditions pour faire des bonnes images individuelles et ensuite les recombiner. Et puis il y a la gestion de la transparence que j'ai évoquée, qui peut à la fois être c'est intéressant, mais ça peut être problématique aussi. Il faut arriver à faire valoir l'information qu'on veut enregistrer. Et surtout enregistrer le maximum d'informations sur chaque objet pour ne pas avoir à revenir en arrière. Donc, pour chaque cas spécifique, ce qui est important, c'est de définir un cahier des charges, ce que j'ai appelé un cahier des charges, c'est pas exactement ça, mais définir quelles sont les informations que l'on souhaite enregistrer pour son corpus d'études et réfléchir. J'ai mis réflexion commune, ça veut dire que si on me demande, je donne un coup de main. Mais voilà, pour essayer de développer une solution adaptée à chaque cas, moi je suis prêt à passer un petit peu de temps pour faire ça, parce que ça m'enrichit et ça m'aide à faire évoluer la plateforme. Je pense que c'est aussi important que les personnes qui sollicitent l'utilisation de la plateforme et le soutien technique, voilà, s'approprient aussi le dispositif pour développer leur propre solution. Donc le principe de fonctionnement, il est assez simple. Hein. Le dispositif fixe, comme son nom l'indique, il reste où il est. Et donc il faut prendre rendez-vous et puis venir à l'IRAMAT à Orléans. Alors dans un premier temps, je pense que le mieux, c'est de venir avec non pas un corpus de 8000 tessons, mais venir avec quelques objets représentatifs et puis... regarder ensemble comment on peut s'en sortir, et puis si le corpus peut être déplacé dans son intégralité, le faire venir au laboratoire et puis travailler en autonomie, et puis quand il y a besoin, on n'est pas loin pour éventuellement trouver une solution ensemble. Et pour ce qui concerne les dispositifs mobiles, dans un premier temps, ce que je préconise, c'est de faire une demi-journée de découverte dans un premier temps, je vais présenter les dispositifs. Ensuite, c'est comme à l'armée, on apprend à monter, démonter son fusil les yeux bandés. Et puis ensuite, on sait bien s'en servir. Bref, une petite période de prise en main. Et puis ensuite, il faut emprunter le matériel. Je fais signer une liste où on dit j'ai emprunté tel matériel, tel accessoire en état de fonctionnement. Et si je le rends... cassé, je sais pas ce qui se passe, c'est les messages qui payent, je sais pas. J'ai pas d'assurance spécifique, donc on essaye de le rendre en bon état. Et puis ensuite, on se déplace sur le lieu de numérisation ou le lieu de conservation des objets. Et puis on travaille en autonomie et on croise les doigts pour que tout se passe bien. Si c'est à Tours, on peut communiquer. Si c'est dans un désert reculé, c'est plus compliqué, mais a priori, on fait en sorte que les personnes qui partent avec soient autonomes et puissent s'en sortir, sauf grosse défaillance, mais là on peut rien faire de toute façon. Et puis voilà, au final on restitue le matériel et puis jusqu'à ce que quelqu'un s'en serve ensuite. Donc c'est relativement simple et donc c'est prêt pour les collègues qui le souhaitent. Donc tous les membres des équipes de la MSH peuvent solliciter l'emprunt du matériel. J'insiste là-dessus, hein, c'est Au départ, c'était l'IRAMAT qui a développé des choses, et puis ensuite le projet MSH, c'était avec le CETIS. Mais il y a des choses qui se mettent en place avec des collègues de CITER. Il y a une accessibilité qui est possible pour les collègues de toutes les équipes qui sont intéressées. C'est un matériel qui est spécifique, qui n'intéressera pas tout le monde, mais pour les gens qui ont des problématiques qui peuvent se retrouver là-dedans, bah c'est disponible et il faut simplement me contacter et on définira tout ça. Et puis l'objectif aussi de la plateforme, comme je l'ai déjà dit, c'est à la fois la formation des personnels permanents, ce qui est important pour eux-mêmes, mais aussi pour transmettre les bonnes pratiques aux étudiants, puisque j'ai pas vocation individuellement à former tous les étudiants aux bonnes pratiques de numérisation des corpus, mais et je n'y tiens pas non plus toutes les règles de bonnes pratiques pour ce type de travail, mais de favoriser les interactions, comme ça a été le cas pour au moment de la formation. Il y a Jean-Philippe qui est là qui en témoignera, mais c'est voilà, favoriser les interactions. Et puis bon, il y a des choses que j'ignorais ou que j'utilisais pas au cours de la formation, même si j'en étais l'animateur, et voilà, ça m'a enrichi aussi, et je pense que c'est ce type d'occasion qui permet de faire évoluer de faire progresser nos pratiques individuelles. Et donc dès lors que les personnels permanents sont formés, bah, ça peut être transmis au personnel non permanent, aux étudiants qui auront une utilisation peut-être moins prolongée dans le temps, mais qui peuvent avoir un besoin assez rapide d'être opérationnel pour ce type de travail. Et donc dans les évolutions à venir, je n'ai pas regardé le temps, c'est bon? Ouais. C'est presque fini. Alors, grâce à un projet région, nous aurons bientôt à l'IRAMAT une loupe binoculaire numérique et une caméra numérique qui va être adaptée sur le microscope. Ce qui permettra, en plus du dispositif de numérisation par appareil photo, de réaliser des prises de vue numériques du macro, donc petit objet, jusqu'au micro, avec des gammes de recouvrement entre appareil photo, loupe binoculaire et loupe binoculaire et microscope, pour aller jusqu'à des grossissements de l'ordre de x500. Je ne sais pas si ça intéressera beaucoup d'autres équipes, et là c'est des choses qui sont vraiment fixes, qui ne bougeront pas, qui ne sont pas transportables, mais ça peut être complémentaire. Je reprends l'exemple des pâtes céramiques, où je ne sais pas non plus comment sont équipés les collègues de Tours qui font ce type d'études, mais ça peut être intéressant, au-delà de l'enregistrement de l'objet lui-même, d'aller voir des détails et de faire des mesures sur des grains dans une pâte céramique pour voir quel type de pâte a été utilisée, s'il y a différentes tailles de grains. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra regarder en loupe binoculaire ou au microscope. Et puis dans les évolutions potentielles du futur, il y a le dispositif de RTI. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant, parce que je pense qu'il y a un besoin de la part de plusieurs équipes. Alors RTI, c'est un acronyme anglais pour Reflectance Transformation Imaging. C'est l'exemple qui est présenté en bas. Alors bon, j'ai pas fait exprès, mais ça ressemble encore à une monnaie, mais ça n'en est pas une. Alors c'est une j'ai pris ça sur internet, hein. C'est un exemple qui me paraît représentatif. C'est une estampille de briques, je sais plus de quelle époque, peu importe, qui provient des fouilles de Southampton en Angleterre, et où on a sur la gauche une image normale. Bon, je les soupçonne d'avoir fait exprès de la prendre pas super bien, mais la RTI permet de faire valoir des reliefs très peu marqués. Là on voit une différence assez forte, enfin, je pense que ça se voit bien, où là on a une inscription qui apparaît sur le pourtour de l'estampille, alors que là elle est très peu visible. D'une manière générale, c'est pour travailler sur des reliefs très faibles. Alors, sur de la monnaie, ça peut être sur des monnaies de fouille qui ont été corrodées, qui ont des légendes qui sont peu lisibles. On va pouvoir les faire ressortir. Ça peut être sur d'autres types d'objets sur lesquels on va vouloir étudier les traces d'usure, voir où, je pense à des collègues de Tours en archéologie qui étudient les os et certaines traces qui sont laissés par les outils sur les eaux. Et ça, c'est une solution qu'on avait évoquée. Et oui, pour je reviens un petit peu en arrière. Donc ce système-là, en fait, c'est on a l'objet qui est placé sur un support, et ensuite on a un appareil photo qui va faire une série de photos avec des éclairages qui vont venir de toutes les directions. Et en recombinant toutes les images obtenues de cette manière-là, on a une image. Alors là, c'est une image fixe, j'ai pas d'image recombinée, mais où dans un petit logiciel, on va pouvoir faire varier l'origine de l'éclairage et faire valoir certains détails que l'on n'aurait pas avec une seule source d'éclairage. Bref, donc ça, il est possible qu'on s'équipe prochainement, c'est pas sûr, ça dépend de collègues qui nous feront ça voilà, de manière artisanale, mais peu onéreuse. Mais c'est à l'étude, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Dans les évolutions possibles, il y a quelque chose que j'avais évoqué, que j'ai pas forcément fait le nécessaire, mais c'est de mettre en place une plateforme fixe à tour aussi, pour éviter de se déplacer et d'avoir quelque chose qui permet de faire le même type de travail ici pour les équipes intéressées, avec une personne référente qui assumerait le rôle que j'assume à Orléans pour l'ensemble. Il y aurait un correspondant à Tours, si on peut dire. Éventuellement, donc là c'est pas prévu pour cette année, mais il faudra que je sonde, voir si le besoin est réel, mais renouveler la formation qui a eu lieu en 2015, peut-être pour l'année prochaine. Il faudra voir ça avec la MSH, si ça fait partie des orientations souhaitées, s'il y a simplement lancer l'idée, voir s'il y a beaucoup de demandes. Mais en tout cas, moi je suis prêt à le faire, et j'ai l'impression qu'il y a un besoin, enfin, en tout cas que c'est pas du temps perdu pour les gens qui s'y rendent, quoi. Et pour moi non plus d'ailleurs, donc voilà. Mais en tout cas, moi je suis prêt à l'assumer. Et c'est fini, je vous remercie.
De format, c'est plutôt du RAW ou ça reste du JPEG parce qu'il n'y a pas de traitement d'image
C'est à l'appréciation de chacun, ouais. Mais moi je fais tout en JPEG, ouais. Parce que je dois avoir 30 000 monnaies sur mon disque dur. Enfin, après, ça dépend aussi des systèmes de stockage dont chaque équipe dispose, hein, mais pour moi le RAW, il ne m'apporte pas davantage d'informations.
Tout ça, en fait.
Ouais. Enfin, ce que j'ai en JPEG est suffisant pour ce que j'ai à faire. Donc, pour moi, le RAW, il apporte rien, si ce n'est des fichiers plus volumineux et quelque chose qui présente pas d'intérêt. Mais après, peut-être que pour d'autres applications, ça va être important. Je reviens à mon idée de cahier des charges. Si il y a des collègues qui me disent je veux shooter en RAW parce que ensuite je veux faire des retouches pour faire apparaître certaines caractéristiques, il n'y a rien qui est interdit. Mais voilà, ce que je préconise aux gens qui sont pas trop spécialistes et dans un domaine que je connais bien, c'est voilà, qu'est-ce que tu peux attendre du RAW et qu'est-ce que le JPEG ne te permet pas. Moi j'ai pas de... Voilà, le JPEG ne me pose pas de limite, donc je reste en JPEG.
Et juste une remarque par rapport à ce que tu disais sur les logiciels de, ouais.
J'ai mis les termes, de prise de vue à distance.
De prise de vue déportée, ouais. Ouais. Il y en a un qui s'appelle le Digicam Control,
ouais.
Et qui permet de connecter des Nikon.
Ouais.
Et il est gratuit.
Et ben bah voilà. Bah quand on renouvellera l'ensemble de la plateforme. C'est ce que je disais, hein. C'est un peu ce qu'on avait vu à la formation, c'est que moi je dis que c'est évolutif, mais je me documente sur certains aspects au coup par coup, et puis voilà, ça c'est quelque chose que je savais pas ou que j'ai oublié.
Après, ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux. Peut-être que celui, ouais, qui est potentiellement très cher, il a peut-être, ça justifie peut-être aussi, quoi.
En tout cas, moi je trouve que le Canon est plus ergonomique, enfin est plus facile d'accès, plus convivial, mais dès lors qu'il y a plusieurs possibilités, ça peut être... chacun est libre de faire comme il veut. Hein. Si ça existe, ça peut être proposé aux utilisateurs, et moi je vois vois pas d'inconvénient à ce que quelqu'un fasse différemment. Hein. C'est pas. Il n'y a pas, y a aucune obligation, c'est vraiment des indications. Et puis après, s'il y a d'autres manières de travailler, enfin, c'est pareil sur la reconstruction d'images, on en avait parlé à la formation. Il y a Helicon, je ne sais plus comment il s'appelle précisément, qui est payant. On peut faire des choses Photoshop, mais c'est plus compliqué. Ça dépend des besoins et des moyens, quoi, c'est tout.
Là, le système actuellement, pour les monnaies, vous prenez les deux faces, vous n'avez pas du tout la tranche.
Non.
Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé le système ou l'info vous intéresse pas?
Parce que l'info n'est pas intéressante. Et puis, ça pose toute une série de problèmes. La tranche, est-ce qu'on fait une image d'une zone de la tranche qui est représentative ou est-ce qu'on fait tout le tour? Il faut modifier la mise au point, donc le calcul de mise à l'échelle, comme on n'est plus dans le même plan, il va être modifié. Qu'est-ce qu'on fait des séries d'images de tranches? Est-ce qu'on les recombine? On va avoir des zones floues parce que ça a énormément de relief. Je connais pas de cas où ça présente un intérêt pour le faire en série. Ponctuellement, ça peut être intéressant parce que on va avoir une monnaie qui, si on la regarde sur la face, c'est une belle monnaie en argent. Et puis sur la tranche, on voit que ben, en fait, c'est une feuille d'argent sur une âme en cuivre. Donc c'est une fausse monnaie. Donc là, ça va être intéressant d'aller photographier la tranche et d'enregistrer cette information pour la publication, pour dire que cette monnaie-là, on l'a exclue du corpus pour cette raison-là. Mais sauf cas exceptionnel, il n'y a pas d'intérêt à prendre la tranche.
Sinon, dans les évolutions, là, je vois le RTI. Est-ce que vous avez envisagé la prise de vue 3D ou relief?
En photogrammétrie? Alors.
En photogrammétrie ou juste stéroscopie?
Du coup, j'y pensais par rapport à cette histoire de tranche. Ouais. Le fait de manipuler ton objet.
Ça. Alors, moi, j'y ai pas participé. C'est mais Adrien Arles, dont j'ai parlé, qui avait fait ça avec un autre collègue d'un autre labo d'Orléans, où ils avaient fait des essais, mais ça fait déjà 3 ans ou 4 ans, et où la qualité était pas, la qualité de reconstruction n'était pas suffisante, mais avec du matériel qui était moins bien. Et puis surtout, il n'y avait pas d'intérêt à le faire en série. C'est un exercice de style. Voilà, on voit si on peut le faire, si on peut pas le faire, et c'est très bien. Mais au final, la force de ce dispositif, c'est que, encore une fois, en tout cas pour la monnaie, c'est que on peut faire des très grandes séries d'objets très rapidement. Dès lors qu'il faut multiplier les prises de vue, multiplier les angles de prise de vue, ça devient beaucoup moins performant et ça devient plus de la photo à la chaîne, enfin de la numérisation de corpus à la chaîne, mais des échantillons exceptionnels qu'on va vouloir valoriser d'une autre manière, mais la problématique elle est complètement différente. Donc je pense que maintenant techniquement ça doit être possible avec un rendu qui est pas mal, mais moi je l'ai pas expérimenté parce que c'est pas ma spécialité et je m'y suis pas particulièrement intéressé parce que ça présente pas de finalité, en tout cas, enfin il y a une finalité qui est mise en évidence par certains. C'est l'étude des liaisons de coins, enfin l'étude automatisée des liaisons de coins à partir des modèles 3D, superposer deux modèles et voir s'ils sont exactement identiques et faire de manière automatisée ce qu'on fait maintenant en comparant les photos et en disant la tête du roi elle est exactement la même, la lettre R elle est exactement au même endroit, donc les monnaies sont frappées par le même coin et donc sur ma série de 800 monnaies de ce roi j'ai 253 coins différents et donc on fait des calculs pour savoir combien de monnaies ont été frappées sous son règne et c'est très long et ça se fait à partir des photos, mais je sais pas si on est à un stade qui permet de... Mais voilà, le temps pour les photos est court et ensuite le temps pour comparer les photos est long. Là, le cas de la numérisation 3D, c'est une comparaison automatique. Il faut vérifier qu'elle fonctionne. il y a tous les problèmes d'usure des coins où un même coin va frapper une monnaie avec un rendu différent parce qu'il va s'user. Il y a la monnaie qui va s'user aussi. Et ensuite, voilà, est-ce qu'on peut faire de manière reproductible à la chaîne des modèles 3D rapidement pour avoir un corpus suffisant pour faire les comparaisons automatiques? C'est là qu'est l'incertitude. Je me sens pas capable de me lancer là-dedans, mais voilà, c'est quelque chose qui peut présenter un intérêt pour certains, mais je leur laisse parce que c'est un peu le graal de certains numismates, et bon, c'est, pour ce qui m'intéresse en numismatique, c'est assez secondaire, quoi. Donc
une question qui a déjà été posée, je crois, il y a quelques années.
Ouais.
Mais ça a peut-être changé depuis. Est-ce que les plans de la boîte sont disponibles, accessibles, publiés?
Non. Non, c'est artisanal. Hein.
Ouais, parce que c'est des problématiques qu'on retrouve même dans le domaine de la science. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions, qui bricolent dans leur coin et
pour intéresser les gens. Bah, en gros, c'est des choses qui nous ont été demandées, où il y a d'autres équipes qui nous ont demandé si on pouvait pas leur en fabriquer, si on pouvait pas payer le technicien officiellement ou non officiellement pour qu'il en fasse. C'est des choses qu'on a refusées, évidemment, parce que l'idée c'est pas de commercialiser le système et de se substituer au marchand dont j'ai présenté les photos pour d'autres solutions, mais oui, enfin les plans ils sont pas publics parce qu'on les a pas rendus publics, mais si on nous les demande, c'est pas compliqué, c'est des mesures, c'est des coller des charnières, c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est vrai que ça, comme je l'ai dit un moment, ça a l'air tout simple, et ça l'est d'une certaine manière, mais ça répond à certaines à un cheminement qui est fait d'erreurs et de corrections, où ça se joue à pas grand chose pour avoir quelque chose de performant, quelque chose de beaucoup moins performant, quoi.
C'est bien pour ça que je pense que ça peut intéresser.
Ouais, ouais.
Mais du coup, avec la nouvelle petite boîte là, que tu avais amenée en plus à la formation, il y a ma photo, quoi, en termes de poids, de l'encombrement. La boîte, elle prend un coup de vieux quand même par rapport à.
Bien sûr, ouais.
Vous l'utilisez encore?
Rarement.
Ouais.
Ouais.
Et ce genre de boîte, quand on passe la douane avec, c'est
pas
bien.
Alors, j'ai une anecdote. Je rentrais de Pau avec un collègue de nuit. Enfin, on a fait Pau-Orléans. On est parti dans la soirée. Et un soir d'hiver, à 2h du matin, au péage de Vierzon, il y a la douane qui nous a arrêtés. Et donc, on avait l'ancien modèle de la boîte en alu qu'on n'avait pas replié parce qu'on était parti un peu vite, une balance de précision, et puis un certain nombre de choses qui pouvaient, dans la tête d'un douanier berrichon à 2h du mat, avec deux gars qui ont rien à faire là, ils ont mis un temps, voilà, ça a mis un temps à faire le tour dans leur tête. Mon collègue a eu la mauvaise idée de leur dire qu'on était numismates, et... voilà, ils nous ont dit c'est un hobby ça, et on a dit non, il y a des gens dont c'est le métier, et puis voilà, donc on est passé 100 heures évidemment, hein, mais voilà, c'était juste, voilà, c'est tombé bien, il y a une anecdote associée, mais non, je pense qu'il n'y a pas de difficulté, à part dans peut-être des pays où ils vont se poser des questions, où voilà, ils sont assez tatillons sur le matériel archéologique, et ce qu'on en fait, où ça peut donner lieu à une fouille, ça peut attirer l'attention pour une fouille un peu plus poussée, mais bon.
Une dernière question. Là, tu parlais de quand même d'une cadence de photos assez élevée, de centaines par jour. Il peut y avoir des ratés encore, ou c'est tellement industrialisé que...
Oui, enfin, il peut y avoir des ratés, oui. Il y a un certain nombre de... Encore une fois, c'est pas rédigé, c'est pas codifié, mais c'est du conseil oral. Mais quand après un long voyage, j'arrive dans une collection et il y a un plateau de monnaie où même pour moi elles sont à peu près toutes pareilles, j'ai intérêt à. Et voilà, il y a un plateau où il y a 12 monnaies par 15. j'ai intérêt à chaque ligne à compter les monnaies, à compter les photos et à vérifier qu'il n'y en a pas une en trop ou une qui manque. Et donc il y a un certain nombre de vérifications à faire de cet ordre-là. Et puis aussi, avant de rentrer à la maison, vérifier qu'au moment du traitement, il n'y a pas eu de perte d'information. C'est-à-dire si je dose mal ma baguette magique pour le détourage, bah, je peux bouffer du pixel sur de la monnaie. Alors a priori, si on suit mes conseils, on garde les fichiers bruts quelque part et donc on ne risque pas de perdre de l'information. Mais voilà, il faut toujours être vigilant et on fait en sorte de minimiser le risque, mais c'est parce que le risque existe. Donc, ouais, mise à l'échelle, détourage, et puis balance des couleurs ou gestion de la luminosité. Et après, ce que je fais aussi, parce que pour moi c'est intéressant, les fichiers traités qu'on récupère, ils sont très grands, ils sont très bien pour l'étude. Si je veux étudier des détails fins, c'est très bien. Par contre, si j'envoie 50 photos, enfin les photos de 50 monnaies, c'est-à-dire 100 images, à une revue pour que ce soit publié en taille réelle sous forme de planche, ça ne les intéresse pas que chaque monnaie fasse un poster. Donc il y a un traitement supplémentaire qui permet de réduire la taille de chaque photo pour faire des envois groupés pour les collègues ou pour les revues. Donc c'est de cette nature-là, les traitements.
Et ça, c'est le logiciel Canon qui le fait ?
Non, ça on le fait sous Photoshop. Ça peut être GIMP ou ça peut être un logiciel de traitement d'image qui est séparé. C'est sous forme de script d'enregistrement.
Vous référencez ensuite les images, comment vous les référencez ou avec quelle méthode? C'est peut-être un peu la suite.
Ouais, c'est une partie sur laquelle on n'est pas très au point et où chacun travaille à sa manière et où il n'y a pas de normes de référencement, et c'est vrai que c'est de ce point de vue là c'est clairement insuffisant. Là on a fait un gros effort et ça, mine de rien, ça commence à faire quelques années et ça me prend pas 6 mois par an, mais ça prend quand même du temps de se documenter, de réfléchir, de tester des solutions, et on a mis l'accent sur la partie enregistrement de l'information, mais c'est vrai que sur la partie référencement et base de données, voilà, il y a clairement un décalage sur lequel il faudra travailler. Bon.
La plateforme mobile, oui. Elle est très empruntée aujourd'hui ou quel est le retour par rapport à... Parce que ça fait un an,
ouais.
Un petit peu plus d'un an maintenant qu'elle est...
Ouais, pas tout à fait. Ouais.
La formation, c'était en juin.
C'était en juin, ouais.
Donc, ouais. Ça doit faire un an. Quel est votre retour
Le retour, il est un peu biaisé dans la mesure où, pour le moment, c'est quand même très centré sur l'IRAMAT. Ou des gens qui gravitent autour de l'IRAMAT, qui ne sont pas forcément des labos de la MSH. Mais... Et donc c'est des gens qui ont, pour la plupart, accompagné l'évolution, et donc qui, à part les collègues du CETIS qui sont partis en Grèce, où c'était un peu un test grandeur nature avec des gens de l'extérieur qui ont fait la formation, qui sont partis ensuite de manière autonome avec le dispositif mobile, où ça s'est bien passé. C'est le seul cas pour le moment. Sinon, c'est des collègues qui, avec qui on a travaillé différemment. Ça peut être des permanents ou des étudiants qui ont commencé à travailler avec nous en master, qui sont maintenant en thèse et qui ont vu les évolutions et qui petit à petit se sont appropriés le dispositif. Et donc, ça tourne bien, mais d'une certaine manière, c'est normal parce que, sans s'en rendre compte, on a passé pas mal de temps ensemble à avoir des aspects spécifiques. Il y a des collègues aussi de l'extérieur, des archéologues qui travaillent sur le verre, qui en sont très satisfaits. mais moyennant quelques ajustements assez minces. Voilà, pour le moment, ça tourne bien. Voilà, il y a peut-être des objets sur lesquels ce sera pas adapté. Enfin, moi, je suis curieux de voir ce que ça donne sur d'autres corpus. Là, je parlais du projet de numérisation du petit mobilier archéologique des fouilles de Tours, que j'évoquais ce matin avec les collègues du LAT. On va voir, il y a une gamme qui est assez large et il faudra définir une stratégie. Contrairement aux collègues qui ont utilisé le dispositif jusqu'à maintenant, c'est des gens qui étudient la monnaie, qui étudient le verre, qui étudient un type de mobilier. Là, c'est du mobilier de tout type et il faudra voir, est-ce qu'on peut travailler par site en prenant tout le mobilier d'un site et en faisant un bout d'os après un clou, ou est-ce qu'il faut avant la numérisation rassembler tous les clous et les faire, enfin ça j'en sais rien, ça va être sportif, mais c'est intrinsèquement c'est intéressant, mais là on aura une série, je pense, de mises à l'épreuve qui permettront de voir les limites aussi du fonctionnement du dispositif. En tout cas, de la part du... Moi, les deux équipes avec qui j'en ai parlé, c'est le LAT et le CETIS. Clairement, pour eux, c'est le cas. Et je pense aussi que c'est important en termes d'effectifs étudiants qu'il y ait quelque chose à Tours. Parce que à Orléans, il y a une fac d'histoire, mais pas d'archéologie. Les étudiants qui travaillent sur des objets, c'est de la numismatique, c'est nous qui les accompagnons. Donc la formation, elle se fait naturellement. Alors qu'à Tours, j'ai l'impression, en tout cas du côté des deux équipes que je connais un petit peu, que il n'y a pas de... C'est pas quelque chose qui fait partie de la formation. Et c'est, j'ai l'impression que c'est un besoin de leur part. Qui est cette parce que c'est mine de rien, c'est ça me paraît essentiel pour quelqu'un qui va travailler sur un site archéologique ou sur l'enregistrement de l'information, ça c'en est qu'une partie, mais c'est voilà, pouvoir travailler sur des images de qualité, c'est fondamental pour pas mal de sujets d'étudiants. Donc et comme les effectifs en archéologie sont à Tours,
et du coup il estime à combien le coût du package, la boîte, l'éclairage, l'appareil, l'objectif.
Je l'avais fait. Je crois que c'était de l'ordre de. C'était moins de 5 000. Parce que là on avait 6 000, on a pu à peu près tout faire, mais avec des choses qu'on avait déjà.
Cette notion de doublé aussi. Ou c'était.
À voir. Je pense que dans un premier temps, il faudrait voir avec un dispositif.
Vous avez cette contrainte-là au départ.
Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'avec avec 3 000, on peut s'en sortir. Mais il faut voir aussi au niveau des évolutions du matériel. La boîte plastique prépliée, là, elle était très bien, elle n'était pas chère, elle n'existe plus. On n'en a acheté qu'une. Donc, ou alors il y a des gens qui la revendent d'occasion 3 fois plus cher. Enfin, donc tu vois, il y a des évolutions de matériel qui sont dans le bon sens. Il y a des trucs très bien qui étaient inabordables et qui deviennent pas chers. Il y a des trucs très bien qui sont sortis et on ne sait pas pourquoi ils arrêtent de le commercialiser. Et ça nous pose un problème pour dupliquer le dispositif. Donc ouais, le calcul, il était de l'ordre de 3 000, je pense. Sous réserve, il faut que je regarde les prix du matériel, des boîtiers, etc. Je n'ai pas regardé depuis plus d'un an, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Non, la formation, c'était 1 000 euros à peu près. C'est un choix à faire au niveau de la MSH. Si ça paraît justifié, voilà, moi je peux m'occuper de ça avec un correspondant à Tours qui gère le planning, qui gère l'accès, qui vérifie que tout est fonctionnel, quoi. Mais et il y a aussi l'autre contrainte qui est que à Orléans, c'est développé par l'IRAMAT et de toute façon, on est la seule équipe utilisatrice, même si il y a des collègues mais qui viennent de l'extérieur à l'IRAMAT pour l'utiliser ou pour l'emprunter. Mais c'est localisé chez nous et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. À Tours, dans la mesure où il y a plusieurs équipes, il ne faut pas que ce soit dans les locaux du LAT ou dans les locaux du CETIS, il faut que ce soit hébergé par l'MSH. Il faut que ce soit un lieu neutre et que ça ce soit accessible, enfin que ça montre que c'est accessible à tous et que c'est pas propre à un laboratoire. Donc il y a aussi ce prérequis qui est d'avoir un local où ça peut être, je sais pas, dans, enfin, je pense comme ça, dans la salle informatique, je sais pas s'il y a un emplacement où on peut mettre en place quelque chose comme ça, enfin je sais pas, mais il faut que ce soit ici. Oui, non, mais voilà, puis il faut que je fasse le nécessaire pour.
Après, il faut vraiment voir quel est le besoin. Et vraiment identifier.
Mais le.
Ouais. Quelle est la taille maximale des objets
Dans le. Alors, j'ai pas tout montré. Je sais pas si on le voit. Hop. En fait, là, il y a la boîte plastique qui est dans une tente en toile plus grande. Donc, dans la boîte plastique avec le petit support et l'objectif macro, ça doit faire. Disons, le grossissement maximal, ça doit être 3 cm par 2, quelque chose comme ça. Et ensuite, on peut aller jusqu'à peut-être 8 cm par 5. Mais si on démonte cette boîte-là, qu'on remonte davantage, davantage l'appareil et qu'on met la grande table lumineuse, on peut faire. La table, elle fait 20 par 30. Donc on peut faire, comme je disais, des objets plus grands ou des groupes d'objets. Mais la concentration de la lumière va être moins efficace. Enfin, ça c'est possible. Mais. Il faut voir dans quelle mesure ça produit des images de qualité. Ça on l'a fait sur de l'orfèvrerie, enfin des bijoux en or celtique, des choses comme ça, où ça marche bien, mais c'est pas dit que ça marche pour des grands objets d'autres natures.
Là, il y aura une question de profondeur de champ.
Et il y a ça aussi. C'est possible, mais. Clairement, sur des torques en or où il y a des motifs qui apparaissent, on peut mettre un objet plus grand à l'intérieur, faire une photo de détail, faire une photo de l'objet entier. Il va falloir, dès lors qu'il y a du relief, il faut recombiner les images pour être net sur l'ensemble, quoi. Non. Si je donne un nom, moi, ça va être débile. Alors je sais pas. On peut lancer un concours. Et puis si je dis un nom et qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça ici, ça va pas aller. Non. C'est effectivement, c'est une idée. Bon, merci,
merci beaucoup
pour vos questions.